Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 23e numéro de JKL, un magazine d'actualité proposé et préparé par les écoliers de CM1 CM2 de l'école française d'Ampadrianum. Dans le studio d'RTA ce soir, 6 chroniqueurs désormais bien connus de nos auditeurs se succéderont pour vous commenter tout au long de l'émission l'actualité de la semaine. Bonsoir Inès.
Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous les auditeurs.
L'actualité mondiale est encore dominée par un séisme sur le continent américain.
Oui, mais ce coup-ci, c'est au Chili que le drame s'est passé. Le séisme, d'une magnitude très élevée de 8,8, a frappé le centre du pays samedi dernier. Il a même déclenché des petits tsunamis dans l'océan Pacifique, comme en Polynésie française ou au Japon.
Quelles sont les explications avancées par les scientifiques ?
Le Chili se trouve à la frontière de deux plaques tectoniques, la plaque Nazca et la plaque sud-américaine. C'est ce qui provoque les tremblements de terre. On écoute les explications du sismologue Pascal Bernard.
Ces deux plaques à l'ouest et à l'est se rapprochent en permanence, mais la zone de contact reste bloquée. Autrement dit, les deux plaques se compriment en quelque sorte, hein, comme élastiquement, comme une gomme qu'on serre entre les doigts. Ça se comprime, mais il se passe rien. Puis tout d'un coup, la faille qui est à l'interface de ces deux blocs qu'on comprime, eh bien, elle commence à glisser. Et du coup, les blocs se décompriment. L'un passe au-dessus de l'autre avec un grand glissement sur la zone de contact. Et c'est le séisme.
Ce séisme a été beaucoup plus puissant qu'en Haïti. Le bilan est-il encore plus lourd ?
Non, heureusement. Même si on compte pour l'instant plus de 800 morts et 2 millions de sinistrés, nous sommes loin des 250 000 victimes de Port-au-Prince. Il y a deux raisons pour cela. Tout d'abord, la ville la plus touchée est Concepción, située à 500 km au sud de Santiago. Elle est bien moins peuplée que la capitale. Par ailleurs, le Chili est un pays plus riche qu'Haïti et les constructions moins précaires ont mieux résisté.
Bonsoir Zoé. Pas de coup de colère aujourd'hui, mais au contraire un message d'espoir.
Bonsoir à tous. Effectivement, la visite récente du président français au Rwanda a relancé une amitié entre les deux peuples. Une amitié brisée par le génocide de 1994.
Peux-tu nous rappeler ce qu'est un génocide ?
Un génocide est la destruction organisée d'un peuple. Le mot a été utilisé pour la première fois en 1944 pour qualifier la méthode d'extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis.
Et que s'est-il passé exactement au Rwanda ?
Le Rwanda est un petit pays francophone d'Afrique centrale, composé de deux ethnies principales, les Hutus et les Tutsis. Le 7 avril 1994, un attentat aérien a provoqué la mort du président Habyarimana. Dès le lendemain, l'ethnie Hutu, dont faisait partie le président, a massacré un grand nombre de personnes appartenant à l'ethnie Tutsi. En 4 mois, 800 000 personnes ont été tuées. C'est un crime contre l'humanité.
Et qu'est-ce que les Rwandais reprochent à la France, Zoé ?
Le Rwanda a rompu ses relations avec la France car il l'accuse de n'avoir rien tenté pour empêcher le génocide et même d'avoir soutenu le régime du président Habyarimana qui a commis ces crimes. Avec la visite de Nicolas Sarkozy à Kigali, le peuple français et le peuple rwandais dialoguent de nouveau. Président Sarkozy a même reconnu des erreurs.
Des erreurs d'appréciation, des erreurs politiques ont été commises ici et elles ont eu des conséquences absolument dramatiques.
Bonsoir Louis.
Bonsoir Stéphane.
Quels événements sportifs ont retenu ton attention ?
Je vais tout d'abord vous parler des Jeux Olympiques d'hiver qui viennent de se terminer à Vancouver au Canada. C'est justement le Canada qui termine en tête des 82 pays représentés avec 14 médailles d'or. La dernière est certainement la plus belle, avec la victoire en hockey sur glace face aux États-Unis.
Y avait-il des pays africains représentés ?
Pas de sportifs malgaches, mais il y avait bien 7 représentants du continent noir, dont 2 sud-africains et 1 éthiopien. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a gagné de médaille.
Quel est le bilan des Français ?
Il est contrasté. La France remporte 11 médailles, mais elles ont été presque toutes obtenues en ski de fond. Aucune en ski alpin.
On quitte l'Amérique du Nord pour l'Europe et le tournoi des 6 nations.
Oui, après la victoire 26-20 face au pays de Galles, l'équipe de France de rugby est la seule équipe à pouvoir encore réaliser le grand chelem. Pour cela, il faudra battre l'Italie et surtout l'Angleterre. On écoute l'arrière des Bleus, Clément Poitrenaud.
Mentalement, on a quand même été costaud parce que ça n'a pas été simple et voilà, on le gagne et on est toujours dans notre plan de marche.
Enfin, retour en Afrique avec le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2012.
Ce sera encore très dur pour Madagascar de se qualifier. Les Baréas sont tombés dans le groupe 2 avec la Guinée, l'Éthiopie et surtout le Nigeria.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Quel est le sujet de ta rubrique ?
Je vais vous parler des découvertes fantastiques dévoilées par le chef des antiquités égyptiennes à propos de la momie de Toutankhamon.
Qui était Toutankhamon ?
C'était un enfant pharaon qui a régné il y a plus de 3000 ans. Sa momie a été découverte en 1922 par l'archéologue anglais Howard Carter.
Pourquoi ce pharaon est-il resté aussi célèbre ?
C'est grâce au fabuleux trésor qui entourait son sarcophage. On écoute les explications de l'égyptologue Marc Gabold.
Elle est liée très certainement à la découverte du tombeau de Toutankhamon, qui est probablement le plus beau trésor antique découvert à peu près intact. Il faut savoir qu'il y a à l'intérieur un cercueil d'or qui pèse 110 kilos, qui est probablement l'un des chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie de l'Antiquité.
Et quelles sont donc ces révélations, Mathieu ?
Tout d'abord, on sait enfin, grâce au progrès de la génétique, qui sont ses parents. Son père était le pharaon Akhenaton. Mais sa mère n'était pas la belle Néfertiti, sa première épouse, comme on l'a souvent cru. Sa mère était tout simplement la sœur de son père. Effectivement, dans les familles royales égyptiennes, un roi pouvait épouser sa sœur parce qu'on les considérait comme des dieux.
Et qu'a-t-on appris d'autre ?
On sait maintenant pourquoi Toutankhamon est mort si jeune à 19 ans. Il n'a pas été assassiné, mais il est décédé du paludisme et d'une maladie osseuse due à cette parenté incestueuse.
Bonsoir Gabriel, quel est le sujet de ta rubrique ?
Bonsoir à tous. Il s'agit de la remise des Césars qui a récompensé le week-end dernier les meilleurs films français de l'année.
Qui sont les lauréats ?
En fait, c'est le film Un prophète de Jacques Audiard qui a presque tout gagné. 9 Césars au total. Je vous propose d'écouter un court extrait de la cérémonie.
Les Césars du meilleur film est attribué à Un prophète. Jacques Audiard.
Pour Un prophète.
Pour Un prophète.
Pour Un prophète.
Pour Le prophète.
Et que raconte l'histoire, Gabriel ?
C'est un film très dur qui raconte la vie d'un jeune homme de 19 ans condamné à 6 ans de prison. Malik El Djebena ne sait ni lire ni écrire. Il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Dès le début, il tombe sous l'influence d'un groupe de prisonniers corse qui fait régner sa loi dans la prison. Mais le jeune homme apprend vite, s'endurcit et gagne la confiance des Corses.
La rubrique culture se poursuit avec une invitée, Gabrielle.
Oui, je reçois maintenant Anne Deguerry, la créatrice de l'exposition du professeur Rakoutou Lemurerer à la gare de Souarano. Bonsoir madame,
Pouvez-vous nous dire qui est ce professeur ?
Le professeur est un personnage de fiction qui est né de la rencontre de trois artistes. Myriam Mersch, qui s'appelle sous son nom d'artiste Sexy Expédition Yéyé, Frédéric Viala et moi-même, Anne de Guéry. Et Myriam travaille à Tamata, elle est artiste plasticienne. Et Frédéric et moi, nous sommes designers et artistes en papier à Majunga. Nous avions envie de travailler sur le cabinet de curiosité et l'exposition qui s'intitule « Le cabinet singulier du professeur Rakout-Lemureur » et reconstitue le musée imaginaire de ce professeur.
En quoi consiste cette exposition ?
Alors cette exposition donne au public la possibilité de visiter le musée du professeur, donc avec ses recherches scientifiques, toute la partie naturalia avec les fossiles, les bêtes, les spécimens qu'il a collectés, la partie scientifique avec on reconstitue son laboratoire, la partie exotique avec le cabinet de lémurification, car le professeur est un expert et lémurologie, et dans le cabinet de lémurification, on se fait lémurifier par les sens.
Comment se déplaçait le professeur ?
Le professeur avait un véhicule tout à fait particulier, un caméléo mobile. C'est un véhicule sur rail qui ressemble à un caméléon, mais qui a un guidon, des pédales et qui avance. Et c'était tout à fait confortable puisqu'on peut même faire la cuisine dedans.
Jusqu'à quand peut-on la visiter ?
L'exposition est présentée dans le hall de la gare de Soiran jusqu'au 20 mars, de 9h à 19h. L'entrée est gratuite et c'est ouvert à tous.
Merci beaucoup, Anne de Guéry, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à toi, Gabrielle.
Ce soir, Simon a la chance de pouvoir s'entretenir au téléphone avec Catherine Missonnier, une auteure de romans de jeunesse à succès qui a passé son adolescence au lycée français de Tananarive dans les années 50.
Allô ? Bonsoir Catherine Missonnier.
Bonjour Simon, je vais essayer de répondre à tes questions.
Votre roman « Mystère à bord » est une histoire policière qui se passe sur un paquebot naviguant entre Marseille et Tamatave. D'où vous est venue l'idée du personnage de Yoshka, ce jeune prince d'Europe de l'Est ?
Le personnage de Yoshka porte le nom de mon arrière-grand-père. Il était un aventurier qui avait voyagé en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, qui avait été chercheur d'or. Il avait fait des tas de choses, gagné beaucoup d'argent et tout dépensé. Et c'est quelqu'un que dans la famille on aime beaucoup, alors je lui ai donné son nom. Il venait de Slovénie, mon arrière-grand-père. Donc c'est effectivement un nom d'Europe de l'Est. Mais le personnage lui-même, du Petit Prince, l'idée m'en était venue à partir de l'histoire du roi du Maroc qui était parti en exil en Madagascar et il aurait pu voyager sur ce bateau. Et puis après, en relisant l'histoire, j'ai trouvé que ça lui convenait pas. Le personnage n'était pas très intéressant et je l'ai changé pour Yoshka, que j'aime beaucoup mieux.
Dans la saga Laure et compagnie, il y a de nombreuses missions extraordinaires vécues par Laure. Lui ressembliez-vous, enfant ?
Alors, je ne ressemblais pas à Laure. Je suis beaucoup moins aventureuse que Laure. Moi, je suis quelqu'un d'un peu trouillard. Le personnage de Laure ressemble à ma fille et porte son nom. Et c'est elle qui fait des choses extraordinairement dangereuses, qui part sans prévenir, qui a des aventures et qui avait toute une bande de copains, exactement comme dans l'histoire. Donc.
Vous avez vécu de longues années à Madagascar. Le goût de la mangue est-il votre histoire ?
Le goût de la mangue n'est pas complètement mon histoire. Le goût de la mangue ressemble à quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai été, comme Anna du goût de la mangue, pensionnaire au lycée de Tananarive, j'étais comme Anna, très amoureuse d'un garçon français, le plus beau de des petits français de Tananarive, et j'avais très envie de sortir avec lui, et en fait il s'occupait pas du tout de moi, je sais même pas s'il avait remarqué mon existence. J'ai écrit les pièces de théâtre au lycée à Tana, j'ai joué avec mes copines, tout ça c'était vrai, j'ai fait des régates sur le lac de Mantachou avec mon père. c'est vrai que j'aimais beaucoup marcher dans Tana, descendre les escaliers depuis Faravuitre pour aller jusqu'au Zouma. Tout ça, c'était des souvenirs, des choses que j'ai vraiment faites. C'est une histoire inventée, mais avec beaucoup de choses réelles dedans.
Avez-vous été heureuse à Madagascar ? Racontez-nous.
Alors, ça dépendait des moments. Je trouvais l'île magnifique et j'ai été, comme Anna dans Le Goût de la Mangue, séduite par Madagascar, par la lumière, par la douceur des gens, par la douceur du climat sur les plateaux, la chaleur à Talatav. J'aimais les plantes, les couleurs, les couchers de soleil. Tout ça, je l'ai beaucoup aimé. Les Malgaches étaient très mystérieux et je les connaissais peu, comme Anna, sauf mes amis au lycée à Tana. Ce que je n'aimais pas tellement à Madagascar, c'était les petits Français avec lesquels je me retrouvais au club nautique ou dans ces endroits-là. Je les trouvais, j'avais très 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 envie d'être une de leurs amies et en fait, eux, ils ne m'aimaient pas beaucoup. Je crois que j'étais assez malheureuse. Et ils étaient très méprisants. En fait, ils n'étaient pas très sympathiques, mais je ne m'en rendais pas compte. Voilà, c'était un petit peu ça, mes souvenirs de Madagascar. C'est très mélangé.
Revenez-vous parfois à Madagascar ?
Alors, malheureusement pas. Par contre, je lis dans les journaux tout ce qui s'y passe. J'ai suivi les conflits récents, tous les problèmes qui ont suivi récemment. Bon, je me tiens au courant. Et c'est un pays que j'aime toujours. Peut-être un jour, je pourrais y retourner, mais je voudrais y retourner avec mon mari pour le lui faire découvrir. Mais vous me raconterez peut-être, Simon, tu m'écriras et tu me raconteras ce que c'est devenu Madagascar.
Je ne manquerai pas de vous écrire. Au revoir et merci.
Au revoir, Simon. Merci pour cet entretien qui a été tout à fait sympathique. When I get older, I will be stronger.
They'll call me freedom, just like a waving flag. C'est maintenant l'heure de vous faire gagner le magnifique t-shirt de l'émission offert par Move. Pour cela, il faudra être le plus rapide à la question qui va suivre. Nous vous rappelons que vous pouvez jouer par SMS au 032 32 007 65 ou bien au 034 34 007 65 en n'oubliant pas d'indiquer JK et votre prénom avant la bonne réponse. À votre touche téléphonique, voici la question. Quel était l'objet le plus précieux du trésor de Toutankhamon ? Sincères salutations à nos auditeurs internautes, cette semaine nous avons dépassé le 1000e visiteur du blog. Bonne soirée sur Wanatou et à la semaine prochaine, même heure, même endroit.